Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir tout le monde, il est 20h, soyez les bienvenus dans ce premier épisode de Classics Time Machine de l'année 2018. Le Dr M au micro, votre érudit de service pour vous servir. Ce mois-ci, au cours de notre voyage radio-temporel mensuel, je vous emmène voir ce qui s'est passé au cours des autres mois de janvier dans l'histoire. Et grâce à mon invention, la Classics Time Machine, je vous enverrai dans le vortex de l'espace-temps de janvier 1959 à janvier 1991, comme d'habitude, en une heure chrono seulement. Alors accrochez-vous bien, préparez-vous à quitter cette année 2018 à peine commencée. C'est parti, ordinateur, ouvrez le vortex temporel. Initiating System 1. System 1 loaded. Et incroyable, nous voilà déjà le 13 janvier 1968. Et oui, car le 13 janvier 1968 a eu lieu l'enregistrement d'un des plus grands albums du XXe siècle, et pas n'importe où s'il vous plaît, à la redoutée prison d'État de Folsom en Californie, où le grand Johnny Cash donna un concert mémorable pour les prisonniers. Un concert peu conventionnel aussi, puisque l'audience était donc composée exclusivement de délinquants et criminels, ce qui n'était pas tout à fait du goût de tout le monde dans l'Amérique puritaine des années 60. Mais Johnny Cash, qui cherche à donner à sa carrière un nouvel élan, et ayant lui aussi passé quelques semaines au trou pour trafic d'amphétamines, se sent dans le fond proche de ces hommes qui, de par leurs actes, se retrouvent enfermés pour des années, voire pour la vie. Ce concert, c'est donc aussi un acte politique, et le gouverneur de Californie le sait bien. C'est Ronald Reagan, un nom qui vous dira certainement quelque chose, qui en profite pour féliciter Johnny Cash de son initiative charitable, sans avoir oublié bien sûr d'avoir fait venir la presse, histoire de déjà peaufiner pour la suite son image d'homme affable et ouvert dans sa course vers la Maison Blanche. Le concert est un énorme succès et Johnny Cash joue 16 morceaux, souvent des chansons sur la criminalité, l'emprisonnement et la peine de mort, mais aussi des chansons, disons, un peu plus gonflées, où il tourne en ridicule les institutions judiciaires du pays. Et puis, il ne faut pas oublier de citer le duo mémorable avec sa charmante compagne, June Carter, pour le plus grand plaisir des prisonniers. L'album tiré de ce concert est d'abord censuré, voire interdit, mais devant l'insistance de Johnny Cash, il est publié et fait un carton immédiat. Inspiré par ce succès, il rempile avec un autre concert et un autre enregistrement l'année suivante, cette fois au célèbre pénitencier de Saint Quentin. Alors choisir un morceau de cet excellent album est un crève-cœur. Honnêtement, je ne savais pas lequel choisir par-dessus un autre. J'ai donc décidé de faire simple en diffusant le morceau d'ouverture, qui est aussi le tout premier single de Johnny Cash et qui s'intitule, tiens donc, Folsom Prison Blues. Si vous pensiez que la musique country c'est ringard, j'espère que vous allez changer d'avis. 1968, Johnny Cash en live, Folsom Prison Blues.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowin', I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Ainsi donc, il y a 12 heures juste, la guerre a commencé. Les forces de la coalition internationale qui sont entrées en action par des raids massifs de l'aviation, je le disais, et des missiles. Apparemment, ils ont tout de suite détruit l'aviation irakienne et un certain nombre de centres vitaux.
Il est 22h50, heure française. L'opération Tempête du désert débute. La guerre contre l'Irak est déclenchée.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq.
La guerre commence. Les sirènes de Bagdad le hurlent. Il est 3h du matin, jeudi.
5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait.
Des centaines et des centaines de points lumineux dans le ciel, les avions des forces alliées lâchent leurs bombes, leurs missiles.
Tonight, the battle has been joined.
Sur le toit d'un bâtiment, une des nombreuses batteries de DCA tente de faire barrage. Complètement submergé par le nombre. Dans un abri, l'attente, la peur.
Selon les responsables militaires alliés, ont été réduits à néant les installations nucléaires et chimiques, ainsi que l'aviation et les troupes d'élite.
18 000 tonnes d'explosifs sont tombées cette nuit-là sur l'Irak, une fois et demie Hiroshima. C'était comme un feu d'artifice, racontera un pilote américain.
Dans un message radio, Saddam Hussein annonce que le peuple irakien vaincra les mécréants.
Saddam Hussein nous a pris pour des pédés, nous a péché.
Le 17 janvier 1991, à minuit, est déclenchée l'opération Desert Storm, qui marque le début de la guerre du Golfe contre le dictateur Saddam Hussein. L'invasion du Koweït par l'Irak avait été lancée en août 1990 en représailles pour différents conflits économiques entre les deux pays et s'était soldée par une invasion rapide par les troupes de Saddam Hussein. Il faut dire que ce dernier avait quelques raisons d'en vouloir au petit royaume avec qui il entretenait des relations plus que tendues depuis quelques années, au sujet notamment de l'exploitation des nappes de pétrole de la région. Tout d'abord allié clé de l'Occident dans la lutte contre l'Iran des ayatollahs, l'Irak se retrouve néanmoins de plus en plus isolé sur le plan diplomatique et les crimes contre notamment les populations kurdes dans le nord du pays, perpétrés au gaz sarin, finissent de dissoudre les liens entre Saddam Hussein et les principaux pays de l'Ouest. La France, qui a livré pendant des années des armes et du matériel militaire à l'Irak, décide de se retourner contre son fidèle client et rejoint l'alliance de 27 pays prenant part à l'opération Tempête du désert. Un ultimatum est lancé à l'Irak. Les troupes de Saddam Hussein doivent quitter le Koweït avant le 17 janvier à minuit, ce que bien sûr elles ne feront pas. Les tentatives de maintien de la paix échouent et les médias nous ont alors livré un exemple de psychose orchestrée comme jamais. On parle en boucle de l'arsenal chimique irakien et on voit des masques à gaz fleurir sur le nez des journalistes en permanence. L'armée irakienne serait la quatrième plus grande armée du monde, forte d'1 million d'hommes et dotée de milliers de missiles soviétiques Scud. En réalité, les troupes irakiennes sont peu motivées, mal dirigées et leur matériel est obsolète. L'armée de Saddam est aussi épuisée militairement. La guerre Iran-Irak, qui a duré 8 ans, a saigné l'effectif irakien. Lorsque le conflit éclate, les bombardements massifs des semaines durant paralysent le pays. L'offensive au sol, lancée fin février, met en déroute les troupes de Saddam qui se replient en masse du Koweït vers l'Irak, presque sans combattre. Et le 26 février, les alliés attaquent les troupes et les civils irakiens qui fuient le Koweït par la seule autoroute existante entre ces deux pays. Bloqués dans un embouteillage monstre, les véhicules, aux trois quarts des véhicules civils, sont complètement à l'arrêt. L'opération est un massacre. La totalité des véhicules sont détruits par l'aviation, les chars et l'artillerie. On compte des milliers de victimes sur ce qu'on appellera alors l'autoroute de la mort. Déjà assez impopulaire, la guerre montre qu'elle n'a rien de chirurgical et l'opinion se retourne. Menacés d'être poursuivis pour crimes de guerre, les alliés mettent fin aux opérations. Le Koweït libéré, l'Irak à genoux, les infrastructures et l'armée étant en pièces, la coalition estime son objectif atteint. 12 ans plus tard, George Bush Jr. terminera ce qu'avait entrepris son père, George Bush Sr., à savoir l'invasion totale de l'Irak et la chute du dictateur Saddam Hussein. Mais ça, c'est une autre histoire.
Legit, I come to make a hit. I usually bust scratches for my brother CL Smooth, but I decided to get wrecked on this groove. As I provide your slide, you're going on a ride. I know the weather's nice, there's no need to play the outside. Guess who's on the flyer? The man of your desire. Pete Rock and CL Smooth, all the honey dips admire. Beats are rough and rugged, Pete Rock is the creator. Now I'm busting raps as well, switching cross faders, making sure my sound hits from here to Grenada. Honey gave me skins, man, I told her friends I ate her. But waiter, I'll save the subject for later, but it's time to get wrecked with the creator. A stove, not into vogue.
Yo, Pete, there's a girl on the phone.
Tell her to hold, cause I'm busy kicking rhymes to the rhythm. 4 to 5 with soul, cause that's what I give them. Honey's for my line, cause I always seem to capture. Beats made a rupture, rhymes made a rapture. Far from illiterate, always seem to get a hit. If you try to step to this, don't even consider it. Skins when I want them, but only when I eat them. To set the record straight, I'll be damned if I eat them. Call me Pete Rock, I make the girls flop. And if you want a beat like this, I got them in stock. So flow with the flow, because you know I'm good to go as I proceed to get wrecked on your stereo. Not an imitator, just a crowd motivator, but it's time to get wrecked with the creator. You'll see a spoon cut it up like this. Take a try and get a piece of the pie if they give me 1 sec to get some wreck. Never filled with anger, a good body banger. If you try to step to this, you'll get hung on my hanger. Before I say goodbye, suckers gave a good try, but point blank, you just can't see this. My word is beneficial, Pete Rock is the issue, and I know you know my style is official. I might give a scratch,
yes, cousin.
Or I might kick a verse,
no question.
Either or, I can't be seen, honeys call me tall and lean, and if you care to stick around, I'll show you what I mean. Not an imitator, just a crowd motivator, but it's time to get wrecked with the creator. To get wrecked with the creator. Get wrecked with the creator. The creator. See us move, get busy.
C'était Pete Rock et CL Smooth, The Creator, en 1991 sur Classics Time Machine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Irlande du Nord, 13 morts par balle à Londonderry hier après-midi.
Tout commence dans le calme. Ce dimanche, ils sont 10 000, peut-être 20 000. La marche est organisée pour protester contre l'internement administratif, c'est-à-dire l'arrestation arbitraire des gens jugés dangereux. Puis brusquement, les heurts éclatent. Et puis c'est l'assaut donné par les troupes. Puis à 4h05, un premier coup de feu. On ne sait pas qui a tiré. L'armée réplique, il y a 13 morts par balle et 50 ou 60 blessés.
The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. The army have said throughout the day that they hope to use minimum force. But 3 hours after the procession began, this has ended up, as dusk comes onto the bogside, as the worst ever confrontation between the army and the Catholic people of the Craigan and Bogside.
Qui a tiré le premier, on ne sait pas. Les officiers anglais affirment que des francs-tireurs ont commencé par tirer. Les témoins irlandais accusent. Ce fut un massacre, pur et simple. L'armée tirait sur tout ce qui bougeait.
Father, how many dead have you seen in the bogside?
Appearing to be dead, there are the three in that Saracen car. There are two men lying at the end of this block of flats. There's another man at least very close to being dead. There's one, there are two others up there. I'm told that there are some more in these flats here that I haven't seen yet. I would say there are probably about four dead at this moment. I don't know what those are doing, but they're lying there. But they seem to be very dead, and they're thrown in as if they were dead meat.
A short while ago, we filmed you leading the way with a white handkerchief.
Yes.
For a party who were carrying a boy who was dead or dying. Now, how was he shot?
That little boy was shot when he was running away. He was just a little bit behind me when he fell. I heard the shot. I looked around. I saw him dying.
You saw him?
Yes. And he was shot.
He was a young man, wasn't he?
He was a young boy, I would say, about 15, but, thereabouts.
He didn't terrible. Have a weapon?
No, he had nothing. He was just a young boy, about 15. He was running. I was running too.
Londonderry, Irlande du Nord, le 30 janvier 1972. Dans une région déchirée par une guerre civile féroce depuis des décennies, a eu lieu d'un des épisodes les plus tristement célèbres de ce conflit, qu'on appellera par la suite le Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Une manifestation de catholiques nord-irlandais pour demander la fin des arrestations arbitraires et politiques dégénère et tourne à l'émeute. Envoyé sur place pour contenir les émeutiers qui jettent pierres et bouteilles sur les policiers britanniques, une unité militaire, le 1er régiment de parachutistes, réputé comme étant une des plus brutales dans la région, ouvre le feu sur les manifestants. Les militaires foncent dans le tas et massacrent ceux qui passent devant leur viseur. Les parachutistes semblent n'avoir fait preuve d'aucun discernement. La plupart des tués ont reçu des balles dans le dos, certains ayant même été achevés au sol devant des dizaines de témoins. Le régiment poursuit les fuyards, hommes, femmes, enfants, et même des prêtres dans les rues et vide plus de 200 cartouches. Il y a 14 morts et une vingtaine de blessés. Les victimes ont entre 16 et 59 ans. Au cours de cette tuerie, rien ne semble avoir arrêté les soldats, pas même les mains en l'air des manifestants, ni les mouchoirs blancs en signe de soumission, ni même les supplications. Ceux qui par malheur se retrouvaient de face ou de dos avec les troupes furent froidement abattus. Lorsque le massacre prend fin et que les prêtres catholiques organisent l'évacuation des corps et des blessés devant les caméras de journalistes abasourdis, leur commandant semble alors prendre conscience de l'effet dévastateur de leurs actes auprès de l'opinion. Lorsque l'enquête est ouverte après le tollé que suscitent ces images, les militaires affirmeront tous avoir été pris pour cible et avoir tiré sur des hommes en armes. Or, les centaines de journalistes sur place ont pris des centaines de clichés des victimes avant, pendant et après la tuerie. Et on n'y voit aucune arme. Les militaires avaient en revanche pris soin de monter de fausses preuves pour se couvrir. Lorsque le père Edward Daly transporte le jeune Jackie Duddy, âgé d'à peine 17 ans qui a reçu une balle dans le dos vers les secours, les militaires lui ordonnent de les laisser l'emmener eux-mêmes vers les ambulances. Ils en profiteront alors pour glisser des grenades dans les poches du gamin afin de prouver qu'il était bien armé. Mais les mensonges et les manipulations n'y font rien, trop de gens, trop de journalistes ont vu la réalité de la scène et le subterfuge ne prend pas. Cet épisode sanglant ne fait que durcir le conflit et range les derniers convaincus encore plus vite dans les bras de l'IRA qui perpétue nombre d'attentats en représailles dès le lendemain. L'enquête n'aboutira à aucune arrestation ni mise à pied, et pire encore, les militaires impliqués seront décorés par la reine Elisabeth. Il faudra attendre presque 40 ans pour qu'en 2010, le gouvernement britannique reconnaisse enfin ce crime et le Premier ministre David Cameron présente des excuses officielles et condamne les actes, je cite, « injustifiables et tout simplement inexcusables ». Néanmoins, aucun des militaires impliqués, ni même leurs officiers, n'ont été un jour inquiétés.
Time Machine, les Saint-Africains parlent au français.
Allez, pour détendre un peu l'atmosphère, on va s'écouter un peu de musique. La même année, en 1972, sortait le premier succès commercial du groupe américain Steely Dan. Steely Dan est assurément l'un de mes groupes de rock préférés des années 70 et je ne manquerai pas de vous passer davantage de leurs tubes dans les prochaines émissions. Composé autour des musiciens Donald Fagen et Walter Becker, qui nous a quittés en septembre, le groupe nous a livré des années durant des albums absolument brillants dont l'évolution dans le style et l'exécution est parfaitement remarquable. Ce single des premières années de Steely Dan, intitulé Reelin' in the Years, de leur album Can't Buy a Thrill, saura, j'en suis sûr, vous donner cette vibe rétro du soft rock de la côte est des États-Unis, une ambiance road trip comme je les aime. Allez, on y va, 1972, les Steely Dan avec Reelin' in the Years sur Classics Time Machine on Radio Saint Freak.
I can't understand.
Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears?
Time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand.
Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, stowing away the time? Have you had enough of mine?
Thank you.
90 seconds and counting, the 51L mission ready to go.
This is a special report from Channel 4 News. Good morning, I'm Kent Shocknick in Space Shuttle Challenger. It's just a few seconds away from blasting off from the Kennedy Space Center near Cape Canaveral, Florida. Let's take a look right now.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff.
That's plan.
Control for rim.
Firing away from pad 39. Challenger is in the center. Pad 39 B since the old Apollo days. Skylab.
Challenger, go and throttle up.
Challenger, go and throttle up.
This shuttle mission will launch. My God.
1:15.
There's been an explosion.
2900 feet per second altitude, 9 nautical miles. Downrange distance, 7 nautical miles. Obviously a major malfunction.
I hope they were able to survive. We have absolutely no sign at all of the shuttle itself. All we saw was that one explosion, only about a minute into the flight.
Le 28 janvier 1986, à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis, a eu lieu une des pires catastrophes de l'exploration spatiale, la désintégration de la navette Challenger. Composée de 6 astronautes et un civil, la mission STS-51L est restée dans les mémoires comme un des événements marquants des années 80. Le lancement a eu lieu vers 11h30 du matin devant des milliers de spectateurs et est retransmis en direct à la télévision sur les chaînes du monde entier. Cette mission était très médiatisée car elle emportait avec elle une jeune institutrice de Concord dans le New Hampshire, Christa McAuliffe. Elle fut sélectionnée parmi une centaine de postulants en raison de son enthousiasme et de son statut social. Elle représentait en effet l'archétype du succès de la classe moyenne américaine qu'affectionnait particulièrement le président américain Ronald Reagan. Ce dernier avait pour ambition de populariser l'exploration spatiale dans l'idée qu'aux USA, n'importe qui peut devenir un héros national. La jeune femme, souriante, modeste et sympathique, gagna vite le cœur des Américains et faisait régulièrement le tour des plateaux télé. Par sa position d'institutrice, elle permettait de faire rêver des millions de gamins de conquête spatiale. Le jour du lancement, ses parents et ses élèves ont été placés dans l'espace VIP des tribunes pour assister au décollage. De nombreuses écoles interrompent les cours pour assister à l'événement. Alors, lorsque les images du désastre sont retransmises, c'est la stupeur. Pour le monde scientifique et le public, cette catastrophe est le symbole d'un rêve brisé. Mais que s'est-il donc passé ce matin-là ? La navette décolle sous un soleil brillant et un ciel bleu irréprochable. Seulement pendant la nuit, il a fait froid, très froid. Au matin, Ferrarissime en Floride, il a gelé dur. La rampe de lancement est couverte de stalactites de glace et le dégivrage de la fusée prend des heures. Vers 11h, tout semble à nouveau en ordre, mais ce que les techniciens ne peuvent pas voir, c'est que les joints des propulseurs de la fusée ont gelé. Pour comprendre l'accident, il faut en fait comprendre comment était conçu le lanceur. Il se compose de deux propulseurs, comme deux fusées blanches, fines, séparées au milieu par un immense réservoir d'hélium et d'hydrogène, de couleur marron-orange et ayant un peu l'allure d'un ballon de football américain. C'est sur ce réservoir qu'est fixée la navette. Les joints des propulseurs maintiennent les différentes parties des fusées entre elles. En gelant, ils laissent s'échapper des gaz de combustion qui prennent feu au contact des flammes de propulsion. À mesure que le trou s'agrandit, davantage de gaz s'échappe et les flammes commencent par percer les parois du réservoir central. Celui-ci finit par se dégonfler et les propulseurs s'arrachent, provoquant l'explosion de tonnes de combustible contenu 73 secondes après le décollage. La cabine où se trouvait l'équipage, très robuste, a été arrachée, intacte de la navette et a fini par s'abîmer en mer après une dégringolade qui dura plus de 2 minutes. Ce que l'on sait, c'est que l'équipage a survécu à l'explosion et était encore en vie lors de sa chute. En effet, 4 des 7 systèmes de survie individuels ont été activés pendant la chute par les astronautes et c'est donc l'impact en mer qui leur a été fatal. Pour les personnes témoins de la scène, ce fut un véritable traumatisme. Le président Reagan décrétera une semaine de deuil national et la cérémonie funéraire fit le tour des télés. Pour ce qui est du domaine de la conquête spatiale, la catastrophe de Challenger marquera le début d'un déclin lent mais sûr. C'était Sheila E. en 1986 avec ce titre A Love Bizarre, composé par le prodige et défunt Prince. Vous écoutez toujours Classics Time Machine sur Radio Saint-Aff en direct avec le Dr M.
Havana, bearing 26th of July banners, joyous followers of Fidel Castro sweep triumphantly through the Cuban capital hours after their rebellion had toppled the regime of Fulgencio Batista.
The story of Cuba and Fidel Castro, headliner throughout 1959. It began the first week of the year when Castro's revolution overthrew the Batista regime. 2.5 years after Castro landed with a small band of men and arms...
Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada.
When he began this campaign with a handful of men, he said, I will be a hero or a martyr. At 31, he's very much a hero.
Le 1er janvier 1959 à Cuba prend fin le régime autoritaire du général et dictateur Fulgencio Batista. Soutenu par les États-Unis, lorsque le mouvement du 26 juillet, dirigé par Fidel Castro, le chasse du pouvoir. Débarqué en 1956 avec une poignée d'hommes, dont notamment le célèbre révolutionnaire Ernesto Guevara, dit le Che, il opère une longue mais fructueuse action de guérilla contre les troupes du pouvoir. Il passe des années caché dans la jungle et les montagnes de l'île, mais le mouvement gagne la sympathie grandissante de l'opinion. Les révolutionnaires cubains s'emparent des principales mines du pays, affaiblissant économiquement le pouvoir et font organiser dans les zones qu'ils ne contrôlent pas des grèves générales qui désorganisent complètement la dictature militaire. Les soldats du général Batista finissent par déserter les rangs et rejoignent en partie les troupes révolutionnaires. Ces derniers lancent alors en décembre 1958 une grande offensive finale et s'emparent en quelques semaines de la capitale, La Havane. Le 31 décembre 1958, la situation militaire est devenue intenable et le général Batista est contraint de partir en toute hâte vers la république voisine de Saint-Domingue en laissant le pouvoir vacant. Les troupes de Castro font une entrée triomphale et le leader Maximo promet dans la foulée des élections dans tout le pays. Elles n'auront jamais lieu. Contre toute attente, le régime fraîchement installé de Fidel Castro entreprend immédiatement de larges purges et des milliers de personnes sont arrêtées, voire exécutées. Le régime de Castro se montre alors au moins autant autoritaire et impitoyable que celui de son prédécesseur. En quelques mois, le pays est fermement tenu et la presse est sous contrôle. Mais Castro installe néanmoins une politique sociale qui lui octroie le soutien constant de la population. Les hôpitaux sont modernisés et gratuits, l'enseignement universitaire est fortement subventionné et gratuit, et les loyers sont entièrement encadrés et dirigés par l'État. Castro anéantit quasiment totalement la corruption des institutions qui gangrénaient le pays. Les entreprises privées sont nationalisées. Lorsqu'en 1960, il aligne le pays sur la politique extérieure de l'URSS, il s'attire les foudres des États-Unis. En 1961, le président Kennedy décrète un embargo total sur l'île. Cet embargo ne sera levé partiellement qu'en 2015. Castro, malgré son régime dictatorial, accusé maintes fois de violation des droits de l'homme, restera toujours populaire auprès de la majorité des Cubains en raison de l'amélioration signifiante de leurs conditions de vie, et ce, malgré un embargo féroce qui limitera fortement les possibilités économiques du pays. Lorsque Fidel Castro meurt, le 25 novembre 2016, les funérailles nationales rassemblent des millions de Cubains dans les rues. Voilà, il est temps de passer un peu de musique, et pour illustrer cette année 1959, je n'ai pas choisi de passer de la musique cubaine, car pour être honnête, je n'aime pas particulièrement la salsa. Alors vous pouvez me jeter des pierres si vous le souhaitez, mais je préfère le soin à mes camarades de radio qui s'y connaissent de vous faire découvrir ce genre musical, et moi, je me cantonnerai à la musique que je connais en vous passant un morceau de l'icône du rock'n'roll Ricky Nelson avec Lonesome Town. Edward Hilliard Nelson, de son vrai nom, périt le 31 décembre 1985 dans un accident d'avion, décidément une tendance assez fâcheuse chez les stars du rock'n'roll américain, alors qu'il était en tournée. Ricky Nelson a, en 30 ans de carrière, sorti près de 100 singles et agrémenté sa carrière de quelques films où ses talents d'acteur furent reconnus, notamment grâce à son rôle de Ryan Colorado dans le mystique western de Howard Hawks, Rio Bravo avec John Wayne et Dean Martin. Je vous laisse donc en sa compagnie avec ce tube de 1959, Lonesome Town, Ricky Nelson sur Classics Time Machine.
go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.
Téléphone, Thérèse, téléphone!
C'est cela, oui, 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 oui.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Ah. Un appel. Allô, détresse amitié.
Je m'appelle Thérèse.
Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse.
Ça nous intéresse plus.
Mais avec quoi t'es donné? Fous-moi la paix pour un merde. Occupe-toi tout seul, espèce de malpreniche.
Ah, monsieur Prescovic.
Oui, 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 c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde?
Non, non, c'est clou. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le bord.
Joyeux Noël, fait.
Je vous disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles.
Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah ben ça va alors.
Non, c'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti.
Si vous pouviez faire levier, je pourrais m'introduire.
Eh ben elle est pas jolie celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres.
Et joyeux Noël, Mme Musquin.
Y a pas de mal. Pierre? Pierre? Et Mme Musquin? Je suis bloquée dans l'ascenseur.
C'est fin janvier 1980 qu'est prise la décision par l'équipe dite du Splendide d'adapter au cinéma leur succès théâtral « Le Père Noël est une ordure ». La pièce, lancée en 1979, est un succès énorme, si bien que la troupe est obligée, pour répondre à la demande, de déménager du théâtre du Splendide au théâtre de la Gaîté Montparnasse, plus grand. Devant le succès grandissant de la pièce, la troupe, composée de Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazelle, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Anémone et Christian Clavier, contacte le réalisateur Jean-Marie Poiré et le projet prend forme. Afin de satisfaire aux besoins cinématographiques, le scénario est réadapté et diffère donc de l'œuvre originale. Le soir du réveillon de Noël, deux bénévoles de l'association SOS Détresse Amitié assurent la permanence téléphonique dans les locaux de l'association à Paris lorsque leur routine est perturbée par l'irruption d'un couple de deux marginaux, comprenant une jeune femme enceinte aux capacités mentales limitées, Marie-Anne Chazelle, et un clochard déguisé en Père Noël miteux, Gérard Jugnot. L'ermite et Anémone, jouant les deux bénévoles charitables, apparemment des modèles de bienséance, perdent leur sang-froid à mesure que la situation dégénère et mettent ainsi à jour leurs petites névroses et gros travers. Le Père Noël est une ordure fut écrit en quelques jours par l'équipe après une soirée bien arrosée entre copains. Les acteurs partent sur un délire et composent au fur et à mesure de leur divagation et pondent un des grands classiques des comédies françaises. Truffé d'humour noir, souvent noir, et politiquement incorrect, bardé de répliques aujourd'hui cultes, Le Père Noël est une ordure mêle humour potache et comique situationnel avec des dialogues souvent subtils et subversifs. Le tournage du film commence en 1981 et le film sort non pas à Noël, mais le 25 août 1982. Mais si la pièce est un succès total, le film, lui, est un échec partiel avec ses 1,5 million d'entrées, un score très en deçà de ce qui fut espéré. Il faut dire que la critique n'a pas épargné le film qui est littéralement descendu en flammes et le public n'adhère pas. La RATP à Paris refuse dans un premier temps de poser les affiches du film afin de ne pas heurter la sensibilité des enfants qui croient encore au Père Noël. Et les cinémas projetant le film apposent à côté du titre « Le Père Noël est une ordure » un sticker clamant « Mais pas le vrai ». C'est à force de rediffusions répétées à la télévision et l'avènement de la cassette VHS que le film devient au fil des ans un film culte. Qui n'a pas un jour cité les pépites de répliques du film à voix haute lors de dîners en famille ou entre amis ? Qui n'a pas un jour imité le ton irritable et pédant de la fameuse Madame Musquin ou feint le ton pragmatique et cynique de l'hypocrite Pierre Mortaise ? Si le film n'est évidemment pas un chef-d'œuvre du 7e art, il est de fait rentré dans l'inconscient collectif des Français et constitue aujourd'hui une des pièces maîtresses du genre de la comédie à la française. A noter d'ailleurs que les fameux doubichous de Sofia de M. Preskovic, eux, existent bel et bien. C'est Josiane Balasko qui les découvrit, non pas en Bulgarie, mais lors d'un voyage en Croatie, où ils sont la spécialité du village d'Osijek, et à ce qui paraît, ils sont bien meilleurs que dans le film. C'est cela, oui.
Du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Que de pression dans les bars.
Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît.
Les gens ont de ces manies.
C'est égalcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur les tendons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait ce qui lui plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron. Les éminents, les petits bateaux. Pour de l'âge-pleur, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pli. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait des tracas. Dans les logis, les mal lotis. Bébé Femme, lui, ça bouillit.
8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Sur ce lit de mes draps bleus froissés. Ces pinces mises sont mécassées. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées. dans le cendrier, espèce de Kleenex et de bouteille vide. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Quand dans Boulogne, c'est désespère, je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en temps de soleil, no. Je coupe la main, ramassant les morceaux.
C'était Chagrin d'amour en 1980 avec Chacun fait ce qui lui plaît, un titre qui fut d'ailleurs leur seul succès à ma connaissance, mais selon certains avis bien informés, il s'agirait de la première chanson en rap français. Bon, je demande à voir.
Je ne suis pas Klaus Barbie, je m'appelle Altman. Depuis plusieurs années, l'homme ne cesse de répéter cela. Mais ceux qui le recherchent depuis sa condamnation à mort et son évasion d'Europe en 1950, grâce à un réseau d'anciens nazis, l'ont reconnu et le confondent par exemple avec ses pièces, les extraits d'actes de naissance de la femme et des enfants d'Altman. Il n'y a aucun doute, Altman est bien celui qu'on a appelé le boucher de Lyon, le tortionnaire de Jean Moulin en 1944, celui qui a été condamné à mort par contumace en France en 1952, et que la France n'a jamais pu récupérer malgré trois demandes d'extradition.
J'ai vu torturer quelques-unes.
Par Klaus Barbie personnellement.
C'est cela.
Notamment le résistant Moulin.
Moulin, oui.
Et vous affirmez que c'est donc Klaus Barbie qui l'a tué.
Oui.
Et vous l'avez vu cela.
Ça, c'est sûr, oui. Il l'a traîné par le pied des escaliers. À la cave.
Et ça, vous l'avez vu.
Aujourd'hui, Barbie est en prison à La Paz. L'Allemagne fédérale le réclame depuis mai 82, mais jusqu'à présent, Barbie était protégé par le régime des militaires boliviens qui ont toujours entretenu de bonnes relations avec les anciens nazis. Barbie n'est pas le seul réfugié de ce genre en Bolivie. La France a ouvert une nouvelle information à Lyon il y a quelques mois contre Klaus Barbie, l'accusant de crimes contre l'humanité. Il n'y a aucune prescription possible contre cette qualification criminelle internationale.
Le 25 janvier 1983, La Paz, Bolivie. Un homme d'une soixantaine d'années est conduit en cellule à la demande des autorités françaises. Il dit se prénommer Klaus Altman et vit dans le pays depuis 1951. Il se prénomme en réalité Klaus Barbie et est un ancien officier SS actif au sein de la police politique du régime nazi. Il a été condamné à mort par contumace en 1952 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, perpétrés en France pendant l'occupation, et notamment pour avoir torturé à mort le chef du Conseil national de la Résistance, Jean Moulin, en 1943 à Lyon. Après la guerre, il parvient à se cacher plusieurs années en France et à s'enfuir avec l'aide de la CIA qui le protège en raison de son expérience dans la lutte contre les résistants communistes. En pleine guerre froide, son savoir-faire en matière d'extorsion d'aveux et sa connaissance des réseaux font de lui un sujet d'étude intéressant pour les services secrets américains. Lorsque la France tente de l'arrêter, le réseau Peterson de la CIA l'exfiltre vers l'Autriche, l'Italie, l'Argentine, puis la Bolivie. Il obtient rapidement la nationalité bolivienne et dirige une entreprise d'exploitation du bois qui s'adonne au trafic d'armes et de drogue au profit des dictatures militaires d'Amérique du Sud. À partir de 1964, il collabore activement avec l'armée bolivienne et donne des conseils pour la recherche et la torture des opposants. Protégé par le régime militaire bolivien, il mène une vie confortable et semble totalement à l'abri de la traque que mène sans relâche le couple de chasseurs de nazis, Serge et Beate Klarsfeld. Malgré mille difficultés à localiser Barbie, le couple Klarsfeld, par un travail minutieux d'infiltration et d'information, parvient à le démasquer. Mais organiser son enlèvement est impossible sans l'aide des services secrets français, qui sont très réticents à froisser leur allié américain en intervenant en Bolivie, pays qui collabore activement à la lutte anticommuniste en Amérique du Sud. Mais en 1980, le vent tourne. Les militaires sont chassés du pouvoir et le nouveau président bolivien, Hernán Suazo, finit par lâcher l'encombrant Klaus Barbie lorsque la France propose au nouveau gouvernement une importante aide financière au développement en échange de son extradition. Barbie est arrêté le 25 janvier 1983 et extradé par avion militaire vers la Guyane française. Barbie n'a alors pas idée de son sort. Il croit qu'il va simplement être expulsé vers une autre république sud-américaine et ne se fait pas trop de soucis. Lorsque l'appareil se pose à Cayenne, il ne comprend toujours rien. Puis les portes de l'appareil s'ouvrent et les gendarmes français montent à bord. Klaus Barbie, tétanisé, réalise alors ce qui lui arrive. Il est immédiatement menotté, puis monte dans un avion le conduisant en France et est placé dès son arrivée à la prison de Montluc en attente de son procès. Mais ça, c'est encore une autre histoire pour un prochain épisode de Classics Time Machine. Et pour l'instant, on va écouter un single de Prince, tiens donc, encore lui, de 1983. C'est 1999 sur Classics Time Machine. Pour finir cette émission, je vous présente la chanson Bonux de ce mois-ci, avec ce titre Potash, interprété en 1985 par le groupe The Beat Farmers, intitulé Happy Boy. The Beat Farmers était un groupe de country punk, si ça existe, on dit même cowpunk, originaire de San Diego en Californie. Le chanteur du groupe, Country Dick Montana, c'est un pseudo évidemment, et on saluera l'insinuation phallique choisie, a connu avec son groupe un véritable succès sur la scène alternative du milieu des années 80 et sont devenus aux USA une sorte d'icône culte de la subculture, toujours très appréciée aujourd'hui. Country Dick Montana s'éteindra hélas en 1990 d'une crise cardiaque sur scène en plein concert au Canada et passera ainsi à la postérité des héros du rock alternatif. Je vous passe donc en conclusion leur titre le plus connu, si on peut dire, Happy Boy, qui, je vous laisse juger, raconte l'histoire d'un gars qui aime sa vie car il obtient toujours ce qu'il cherche à obtenir et lorsqu'il écrase un petit chien en voiture, il le cache dans un tiroir de son bureau et l'oublie avant de rouvrir ce même tiroir quelques mois plus tard par hasard, ce qui lui donne alors un fou rire incontrôlable. Rock!
walking down the street on a sunny day. Hubba, 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 hubba. A feeling in my bones says I have my way. Hubba, 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 hubba. Oh, I'm a happy boy.
Happy boy.
I'm a happy boy.
Happy boy.
Oh, ain't it good when things are going your way. Hey, hey. My little dog Spot got hit by a car. Hubba, 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 hubba. Put his guts in a box and put him in a drawer. Hubba, 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 hubba. Oh, I'm a happy boy.
Happy boy.
Oh, I'm a happy boy.
Happy boy.
Oh, ain't it good when things are going your way. Hey, hey. Forgot all about it for a month and a half. Hubba, 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 hubba. I looked in the drawer and started to laugh. Hubba, 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 hubba. Cause I'm a happy boy.
Happy boy.
I'm a happy boy.
Happy boy.
Oh, ain't it good when things are going your way. Hey, hey.
Et bien voilà, Classics Time Machine, c'est fini pour cette fois. Si vous êtes encore là, félicitations et merci. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission le vendredi à 17h et le dimanche à 16h et bien sûr à n'importe quel moment sur la page Classics Time Machine de notre site www.radiosaintafrique.com. Comme d'habitude, cette émission a été écrite, réalisée, mixée, montée, rédigée, préparée et présentée par le Dr M, c'est moi. Et à la production, à la technique, notre MacGyver des studios, c'est Clément derrière sa vitre. Mesdames, si vous le voyez, vous en deviendriez folles. Vos réactions, vos commentaires, vos critiques, vos suggestions et vos déclarations d'amour au Dr M sont les bienvenues. Et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, mercredi 28 février à 20h, pour un prochain voyage radio-temporel. D'ici là, portez-vous bien et restez classe.
Who is that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.